Nous sommes en mars 2017 et vous écoutez le 86e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Père Castor et aujourd'hui je suis accompagné de mon collègue de la chronique Riche en Plastique, Flavien. Salut Flavien.
Salut Père Castor et salut les auditeurs.
Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Martin Bouchard de Plan B Games. Bonjour Martin.
Bonjour.
Et également Emerson Matsushi, l'auteur du prochain jeu qui va sortir chez Plan Game. Bonjour.
Bonjour.
Un grand merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et également un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Un grand merci à Benjib, Arnaud Van Meusenwinkel, Monsieur Tino, Alta, Celia, Volvi, Sébastien, Néophytes, Grovast, Plouf Plouf, Alès, Nadoteki, Polgara 21, Gaëtan Perrin, Aldebaran, Ocaseo, Olivier, Franck, Chris et Ongro, Siol, Didub, Lacariatre, Psind, Mathieu Bossu, El Pouillou, Fnup, Ladaline, Deckmoon, 22, Lionel, Guilin, Jimmy Celtic 95 et Jean. Aujourd'hui, nous recevons Plan B, qui fait une petite tournée en France pour nous présenter leur future sortie. Donc, le prochain jeu apparaît chez vous, qui est donc...
Le premier,
tout à fait. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer à la boutique Philibert pour une démonstration et j'ai eu l'occasion de faire deux parties du jeu. Et donc, vous participez également à des festivals lors de cette tournée en France ?
Et enfin, on sera sur le festival de Modena. En Italie, à Play Modena, sur la fin du voyage, le 1er et le 2 avril.
Ok, et donc ce week-end, vous étiez donc chez Philibert le samedi pour une animation, et hier, vous étiez au festival Happy Games, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, pour faire des démos.
Qui se passe à Mulhouse. Avant qu'on parle un petit peu plus en détail du jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du nouvel éditeur Plan B, un petit peu, quelle est son origine, quel est son devenir ?
Déjà, peut-être pourquoi ce nom Plan B ? C'est vrai que, est-ce que déjà c'est international ? On dit aussi Plan B en anglais ?
Oui, c'est une expression qui existe. Oui, c'est ça. Le nom, il est comme surgi super rapidement parce que, en fait, avec la vente du groupe Philosophia qui était... sur les dernières années, F2Z à Asmodée. Il y avait un souhait de rester dans le jeu de société et de continuer à travailler dans le domaine par passion.
Et continuer à faire de la création ludique.
Et continuer de faire de la création et tout. Et Sophie Gravel, la fondatrice de Philosophia F2Z, voulait vraiment continuer
d'être au cœur un peu de la création.
C'est ça, de commencer un nouveau projet. Et le nom Plan B est venu très naturellement par la situation, en fait.
C'était le Plan B, c'est ça?
Exact.
C'est un peu l'idée? D'accord, ok.
Exact. Et moi, je suis depuis les tout débuts associé à Philosophia et très, très proche de Sophie par intérêt, par complicité et tout, lorsqu'est arrivé l'idée du plan B, je me suis
dit cette volonté commune de continuer de peut-être démarrer une nouvelle aventure.
Oui, exactement.
Vous n'avez pas peur que le nom ça fasse parce que c'est vrai qu'en France, quand on dit c'est un peu le plan B, c'est qu'on n'a pas réussi quelque chose, le plan A, et que justement on arrive au plan B. Vous n'avez pas peur que ce soit un peu entre guillemets vu comme péjoratif ce nom-là ?
Ben en fait, c'est la première impression que ce nom-là peut avoir, je dirais, dans n'importe quel domaine, mais en même temps, c'est utilisé dans le cinéma ou dans différents domaines. Et nous, ce qu'on se disait, c'est d'ailleurs, si on regarde un peu au niveau du logo. On a travaillé longtemps sur le logo et tout ça. Et le logo, en fait, si on regarde ce qui compose le logo, on va voir un papillon. Et l'idée du papillon, c'était vraiment que, le plan B de la chenille...
C'est le papillon.
Papillon. Donc, pour nous, c'était genre...
Voler tes propres ailes.
Exactement. Puis c'était un plan B qui offre quelque chose, des possibilités encore plus grandes que le plan A et tout ça.
Et un papillon, c'est plus sympa qu'une chenille.
C'est plus mignon. Même s'il y a Morning. Ah non, Morning, c'est les croissants, c'est ça ? Je sais plus.
Ouais, c'est...
Ouais. Peut-être tu parlais de ton parcours chez Philo. C'est vrai que c'est ce qu'on disait en off avant et que je disais à Maxime au moment où il nous a dit où il m'a dit ah on va avoir plan B etc avec Martin Bouchard. Je me suis dit tiens ce nom-là me dit quelque chose. Et je me rappelais t'avoir entendu chez Boîtecast. Mm-hmm. C'est vrai que c'était en 2008 je crois au moment de la sortie de Palais Royal.
Ah donc, oui ok ça fait
ouais, ça fait un bout de temps donc ça montre que t'es aussi dans l'industrie. Si on parle en termes économiques du monde du jeu de société depuis un paquet de temps, tu disais même c'est depuis 2004, c'est ça?
Oui, 2004. En fait, on a commencé 2003-2004. Moi, je suis arrivé un petit peu. Je crois que Sophie a fait une année et je me suis joint après. Je dirais pas à l'équipe parce qu'elle était toute seule.
Ouais.
Puis c'est ça. Au début, on faisait que la distribution. C'est qu'on est arrivé ici en France avec des boîtes, des logos sur des boîtes. Plutôt autour de 2006-2007. Avec
Philosophia est une boîte à la base canadienne, c'est ça?
Oui.
Enfin, elle a toujours été une boîte canadienne. Et au début de la distribution, c'était vraiment au Canada de jeux qui n'existaient pas encore là-bas, c'est ça?
Oui, en fait, on distribuait au Canada des sociétés européennes dont on assurait la distribution canadienne. Et graduellement, on a...
Vous occupiez des traductions en anglais aussi de certains jeux allemands?
À ce moment-là, non. Ouais, non. À ce moment-là, on faisait que la distribution.
Et distribution, là-bas, ça s'entend comment? C'est aller vers les boutiques, leur dire « Nous, on vous propose telle boîte que vous n'avez pas, on vous gère les stocks, etc. »
Exactement.
D'accord, ok. Et avant d'arriver chez Philo, toi, comment est-ce que tu y es arrivé finalement vers 2004? Tu étais joueur déjà avant? Depuis quand un peu ton parcours très rapidement?
J'étais joueur avant. J'ai recommencé à jouer parce que jeune, j'étais joueur. Donc, probablement comme plusieurs, à jouer les classiques et les rejouer, même les transformer pour transformer les Monopoly en d'autres choses et tout ça. J'ai fait ça pendant ma jeunesse. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer parce que, je sais pas, les jeux qu'on nous offrait étaient moins intéressants et je connaissais pas toute la nouvelle vague allemande de jeux de société et tout. Et à un moment, moi et ma copine, on est allés par hasard s'acheter en boutique un jeu de société pour une activité là, de journée pluvieuse ou quelque chose comme ça. Et on nous a offert deux choix de jeux et vraiment je suis allé par le thème, l'illustration, vraiment les deux étaient complètement à des antipodes et parce que par mes goûts graphiques et tout, je suis allé vers Tikal.
Ouais, un grand grand classique, ouais.
Et souvent c'est quand je raconte cette histoire-là, je me dis OK, ça a vraiment été comme un point tournant parce que Tikal après ça on a joué comme plusieurs aussi les premiers jeux, on les use, on joue 200 parties. Là. Donc,
et Tikal, en premier jeu, comme ça, pour revenir, parce que c'est quand même un jeu assez, assez costaud, est-ce que ça vous a pas dégoûté, toi et ta compagne, à l'époque? Parce que c'est vrai que si on compare effectivement au grand classique, il y a quand même une somme de règles assez importante à assimiler, etc. C'est quand même pas un jeu simple.
T'as déjà un background déjà dans le jeu, donc ouais, ça t'a pas effrayé.
Je pense que t'avais beaucoup rendu là, tu sais, le jeu, les illustrations, tout ça, ça avait tellement l'air magnifique.
Ouais, la construction
que ça offrait,
des temples, etc. Ouais.
Que même si la règle était... Tu sais, aujourd'hui, les règles sont construites un peu plus... c'est un peu plus facile d'aborder, il y a plus d'illustrations, la mise en place est facile et tout. Même si c'était un petit peu ardu, ça ressemblait plutôt à un manuel d'instruction comme on peut avoir avec... N'importe quel article ménager. Fait qu'on passait à travers ça et ça avait l'air...
Comme si tu lisais une notice, en fait.
Oui, ouais. Exactement.
Mais personne ne lit les notices, sauf quand il y a un problème.
Ouais. Puis probablement les premières parties, je me rappelle pas trop, mais je me rappelle sur d'autres jeux avoir fait des erreurs, mais les jeux, ce qui offrait de super intéressant, malgré une petite erreur de règle, de lecture et tout ça... Le
cœur de jeu, ouais,
le cœur du jeu offrait quelque chose de tellement intéressant que on a rejoué. J'imagine qu'après 20 parties, on avait la vraie règle puis on jouait parfaitement.
Et là tu dis ah les 20 dernières, il nous manquait un truc quoi.
Mais c'est drôle parce que dans la première vague de collection qu'on a eu d'à peu près la première vague de collection qu'on a eu comme ça, je dirais d'environ peut-être 5 jeux, il y a eu Condottière puis il est arrivé peut-être dans les 3-4 premiers. Puis celui-là, on a joué beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle qu'on a joué très, très, très longtemps avec une mauvaise règle de jeu. Donc, avec un mauvais point de règle, et le jeu était quand même bon, donc je pense que ça aide si le jeu est capable de tenir ça.
Ça me fait penser, quand j'avais fait ma première partie de Dead of Winter, mm-hmm. je voulais augmenter la probabilité qu'il y ait un traître, et en fait j'ai mis deux cartes de traître dans le jeu, et du coup on s'est retrouvé avec les deux traîtres en jeu, et au bout d'un moment on se dit, non mais il joue contre la communauté, et lui aussi, qu'est-ce qui se passe? Et là on était un peu confus.
Et donc ouais, tu dis un peu retour dans le jeu via Tikal, etc. Donc Tikal, c'est 99, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Donc début des années 2000. Et en 2004, donc tu intègres Philosophia. Comment est-ce que se fait un peu ce passage de joueur à membre finalement professionnel de la communauté ludique?
Ouais, ben en fait, ces premières années-là, on jouait beaucoup. Puis en même temps, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été intéressé par le dessin et ces trucs-là. Puis, vers le tournant 2000, j'ai eu une idée de jeu tout simple, plus jeu enfant, familial. Puis, en fait, c'est à jouer comme ça à Tikal et à El Grande, ces jeux-là avec des amis, en offrant un cadeau un moment à l'anniversaire de ma nièce, qui était finalement une planche pour faire des dessins avec des formes de visage, personnages et tout ça, où on construisait son personnage un peu de façon random. Les gens autour de la table me disaient, mais pourquoi tu fais pas un jeu avec ce truc-là? Puis pour moi, c'était pas un jeu, c'était plus une forme de dessin et tout ça. Et finalement, à repenser à ce truc-là, j'ai fait un premier jeu que je suis allé proposer à des éditeurs dans le temps au Québec. Il n'y avait pas trop d'éditeurs et tout.
Tu étais où au Québec? Montréal ou...
À Montréal.
Montréal, ouais, d'accord. La boutique où tu as acheté ton jeu, c'était le Valet de Cœur ou c'était autre chose?
Non, c'était une boutique. C'était sur la rive sud. Je me rappelle pas du nom.
Ouais.
Et j'ai découvert le Valet de Cœur après. J'ai découvert le Valet de Cœur après, c'était OK, waouh, il n'y a pas juste Tikal.
D'accord, ouais.
Puis, au bout de, j'irais peut-être une année et demie, après ça, j'avais un jeu qui s'appelle Similarius, qui a été publié à l'époque, qui est un jeu de reconnaissance visuelle. Donc, tu avais justement des personnages composés de formes forme de visage, yeux, nez, bouche et tout ça. Et le jeu a été publié et on s'est rencontrés sur le même salon. Donc, moi et Sophie, sur un salon québécois, où est-ce que moi, j'aidais l'éditeur à faire connaître le jeu aux boutiques.
C'était quel éditeur?
C'était un distributeur qui publiait son premier jeu. Il distribuait Cranium au Québec.
D'accord.
Qui s'appelle ILO 307. Et qui s'était associé à un imprimeur. Donc, les deux avaient avancé le budget pour
créer le jeu. Ouais.
Pour créer le jeu.
D'accord. Et donc là, tu rencontres Sophie en entre guillemets, présentant ton jeu, ouais?
Ouais, c'est ça. J'ai rencontre. Puis, en fait, ce qui m'a vraiment accroché au début, c'était son étalage de jeux, parce que sur ce premier salon, c'était la seule à avoir du jeu
un peu costaud.
Un peu costaud, hein, qui allait dans la lignée Tikal. Elle avait un étalage de Catan. Il y avait, je crois, Les Cités Perdues, Kauna. Donc, tous ces jeux-là, ça m'attirait au plus haut point. Et en fait, je suis allé la voir pour savoir où est-ce qu'on trouvait ces jeux. Si je pouvais lui en acheter direct.
Tu lui as pris un stock tout de suite.
Finalement, ouais, j'ai pris un stock tout de suite. Je suis allé la rencontrer à son entrepôt qui était finalement son garage à la maison. Puis comme ça, on s'est trouvé des intérêts communs, on a commencé à jouer. Ma conjointe aussi, on s'est fait un groupe de jeux, puis on devait jouer 2-3 fois par semaine.
D'accord, et donc c'est là que tu es un peu cette relation avec Sophie et oui. Le fait que tu rejoignes après Philo. Mm-hmm. Tu disais, c'est d'abord de la distribution, c'est à quel moment est-ce que ça devient finalement un éditeur?
On a commencé à devenir éditeur avec Catan, donc c'est autour de 2006 qu'on a commencé à travailler sur la première... ça avait été déjà édité par Tilsit dans le temps en version française,
ouais.
Mais notre version française date de 2006.
Ouais,
après ça, il y a eu les piliers de la Terre, juste...
D'accord, ouais. C'est amusant que tu parles d'éditeur en parlant de Catan, parce que c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'abord de l'éditeur, c'est aller chercher un jeu chez l'auteur, le développer, etc. Catan, c'est vrai que c'est un jeu qui existait déjà.
Oui.
En quoi, finalement, est-ce qu'on devient éditeur en faisant un jeu qui existait déjà? C'est vrai que souvent on dit éditeur, il fait un premier jeu, un jeu inédit. Mm-hmm. Là, tu dis on devient éditeur avec Catan. Il y a eu des vraies grosses modifications.
Mais en fait, c'est pas Il n'y a pas vraiment de modification au niveau de la règle ou tout ça. C'est plus, je dirais, dans le choix du catalogue et dans ce qu'on va offrir à un public.
Pour le diffuser plus largement.
Exactement, exactement. C'est sûr que, bon...
Donc, en fait,
c'est dans le livre, j'imagine que...
C'est à mi-chemin entre l'éditeur et le distributeur.
Vous restiez distributeur à ce moment-là? Ouais, vous étiez toujours distributeur?
Oui.
Votre propre distributeur, d'accord. Et donc, éditeur. Et c'est vrai que Philosophia a une certaine image en France, dans les pays francophones, depuis des années, d'un éditeur qui fournit soit des bons jeux, soit en tout cas des jeux qui fonctionnent, avec parfois des stocks un peu limités en France. Je pense par exemple à Terra Mystica, qui était un vrai carton et qui finalement s'est vite retrouvé en rupture. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte que finalement, ok, on distribue au Canada des jeux, etc., ce public-là en France, il est réceptif, c'est un public à conquérir, c'est un public qui est réceptif aux changements dans le monde du jeu de société, et on va aller vers lui, on va lui proposer des jeux.
Tu parles du public français,
moment est-ce que vous commencez, public européen, disons, à quel moment est-ce que vous allez essayer de vous implanter en Europe en tant qu'éditeur?
Ah, c'est venu tout de suite avec la première boîte de jeux. Donc, cette idée de devenir éditeur de jeux était là du début, avant même la distribution. Donc, c'était un peu l'idée de par la suite de passer à travers les étapes, la distribution et après ça. Et c'est sûr que le fait d'avoir Catan et d'avoir accès au catalogue Cosmos a comme accéléré le truc de pouvoir justement avoir un plus grand rayonnement sur notre catalogue et tout là. Après ça, on a enchaîné avec quelques rééditions de jeux qu'on a fait, mais vraiment c'était pour garnir le catalogue de travailler avec des éditeurs comme Cosmos là.
D'accord. Et ouais, donc le public français tout de suite, le public européen, disons, tout de suite au cœur un peu de cette idée là. Donc, vous distribuiez uniquement des jeux traduits en français ou également des jeux en anglais?
On faisait les deux.
Les
on
deux?
On faisait les deux. Mais quand on a commencé à faire de l'édition, donc l'idée, c'était vraiment de faire de l'édition en français puis dans toute la francophonie. Là. Donc, il n'y avait pas de limite.
Canada,
en fait,
Québec,
oui,
France.
Oui, c'est impossible de toute façon de dire, OK, on se ferme et on fait que des affaires au Québec. C'est pas du tout comme ça qu'on voyait les choses là.
Et alors, ouais, pourquoi le désir d'aller vers l'Europe comme ça? C'est parce que le public québécois, entre guillemets, n'était pas un marché suffisant pour réussir à en vivre?
C'est parce que de toute façon, en commençant à faire du jeu en français, en commençant à traduire justement du jeu allemand en français, on avait accès à toute la francophonie et le Québec, c'est une petite partie.
Et au niveau du Québec, le marché est plutôt sur des jeux à l'américaine, les Améritrash ou...
Je dirais qu'il y avait l'ouverture aussi. C'est juste qu'en nombre, on faisait pas les mêmes quantités. Là.
OK. Et le rôle que tu avais chez Philosophia, si on devait le définir, c'est... Tu participais au fignolage des jeux aussi ou tu faisais de la conception?
Du sourcing.
Ou du sourcing. T'avais quel rôle, en fait?
En fait, j'ai fait... pas mal de rôles à travers
assez versatile.
Années.
Ouais, j'imagine que ça a évolué vu que l'entreprise, tu disais au début, il n'y avait que Sophie. Voilà, à partir du moment où ça a grossi, je pense que ton rôle s'est peut-être précisé aussi.
Ouais, c'est ça. Au début, on occupait à peu près tous les rôles, chacun avec chacun avec ses forces. Moi, je participais un peu plus aux activités marketing, communication. Donc rapidement, tu sais, j'ai fait des salons. Tu disais tout à l'heure que tu m'avais entendu dans un podcast. C'est parce que je faisais les voyages et les participations au salon et tout. Après ça, quand on a commencé à faire un peu plus d'édition directe, je commençais à faire un petit peu plus de... Maintenant, là, je fais un petit peu plus de développement de jeu.
La direction artistique aussi, tu t'occupais. Tu disais que tu étais vachement intéressé par ça, le graphisme, etc., que c'est pour ça que tu étais allé vertical.
En fait, je n'ai pas de direction artistique. C'est plutôt Philippe Guérin qui l'a fait chez nous, qui est vraiment hyper talentueux. Et chacun, on se donne son avis sur le travail de l'autre. Donc, on travaille comme ça en équipe.
Et juste pour revenir sur la présence en Europe... Est-ce que rapidement vous cherchez un distributeur pour vous implanter en Europe ou vous assurez aussi vous-même, Philosophia, l'aspect distribution en Europe au début?
À cette époque-là, on est distribué. Donc, on distribue déjà Asmodée au Canada, puis Asmodée nous distribue ici.
D'accord, ok. Donc, le lien Asmodée qui date de
cette
époque-là.
Oui, le lien, il date de cette époque-là, un petit peu avant même de nous de faire nos propres jeux. On distribue déjà Asmodée.
Ok. Donc maintenant, ben, on va parler du présent et du futur, hein, après ce petit volet en arrière. Donc, plan B, donc vous êtes des anciens de Philosophia à avoir créé cette nouvelle structure, hein, c'est bien ça. Vous êtes combien actuellement ?
Neuf.
Neuf, ah ouais, donc c'est oui. Déjà une... C'est pas une petite structure, on va dire, c'est, ça fait
non,
déjà pas
mais,
mal de
monde. Non, mais c'est ça, c'est graduellement... bon, ça prendrait, comme en imaginant ce que ça pouvait être, c'était OK... telle personne va, les personnes se sont joints l'une à celle de l'autre et jusqu'à arriver à ce nombre-là de... Bon, maintenant, on a notre équipe complète et...
avec chacun sa spécialité.
Exactement.
Chez Philo, vous étiez combien à la fin quand justement s'est fait cette transition?
Une cinquantaine.
Cinquantaine, d'accord, ok. Et neuf, c'est ce que tu dis là, que c'est une grosse structure, entre guillemets.
Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude, des fois, quand on reçoit des éditeurs...
Qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient
à deux
etc.
ou trois.
Et quand on n'a pas publié de jeu comme ça, c'est prendre quand même un gros pari, entre guillemets, de... Il y a neuf personnes à salarier, etc.
Ouais, en fait, on a publié des jeux puisque, dans la structure, on a gardé Pretzel Games.
D'accord, Pretzel Donc... Games, pour rappeler aux auditeurs qui avaient publié Flick 'em Up en premier, il me semble.
Oui.
C'est ça.
Et qui... Junk Art.
C'est ça. Et du coup, ouais, donc, tu dis vous fondez Plan B. Alors, on a parlé un peu de l'origine du nom, etc. C'est vrai qu'il y a eu un espèce de gloubi-boulga à Asmodée qui a grandi, qui a racheté FFG, qui a racheté pas mal de choses, qui a acquis des studios, etc. Et Philosophia, une position qui a évolué aussi à ce niveau-là par rapport à Asmodée, qui était plus juste un simple distributeur. Est-ce que tu peux juste... Philo est devenu F2Z avec Zenman Games, acquis Play That Games... qui est également donc a créé Pretzel pour le coup je pense ou...
Oui. Ouais. Oui, on est parti de zéro là, en créant
Pretzel. C'est vraiment une création qui n'existait pas encore. Quelle est un peu justement très très rapidement l'évolution de la relation Asmodée de Philo aujourd'hui Philosophia, est-ce que ça existe encore concrètement?
Ben, en fait oui, parce que de la transaction, nous, maintenant, on est distribué par Asmodée sur des marchés desservis par Asmodée. Et donc, il y a un lien comme ça entre Asmodée et nous au niveau de la distribution.
Entre Asmodée et Plan B, tu veux dire?
Oui, entre D'accord. Asmodée et Plan B.
Donc oui, on a dit Philosophia est racheté par Asmodée et Plan B, c'est vrai que ça fait quelques mois que nous on en entend parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi finalement ne pas rester chez Asmodée, chez Philosophia qui existe encore? Pourquoi est-ce que vous décidez, avec Sophie et donc d'autres personnes de chez Philo, de créer une nouvelle maison d'édition? C'est quoi un peu la volonté derrière ça?
Ben, la volonté derrière, c'était, comme je disais, moi... Mon attachement personnel, c'était de continuer dans le même projet. Et ce qui était proposé comme projet, c'était de se concentrer sur l'édition, de se concentrer sur des jeux, de se faire plaisir, première des choses, de réunir des gens qui sont talentueux, créatifs à l'interne et avec aussi à l'externe tous les collaborateurs, mais de choisir des gens avec qui on veut travailler, qu'on estime aussi très talentueux et avec qui on a des affinités.
Et faire peut-être plus de sourcing aussi vers des auteurs, plus aller chercher des nouveaux talents?
Oui, puis c'est ça, je dirais pas choisir, mais provoquer les relations, s'assurer que il y a une relation qu'on veut construire derrière parce qu'on croit que en mettant ce type de personnes ensemble qui sont tous passionnés.
Chez Plan B, il n'y a que des gens qui étaient chez Philo auparavant?
Oui.
Ouais, donc il y a aussi cette routine de travail, entre guillemets, cette habitude de travailler ensemble que vous avez retrouvée tout de suite.
Oui, oui. Puis avec vraiment tous une grande passion pour qu'est-ce qu'on fait, puis le projet qu'on porte aussi en ce moment. Alors, en créant cette atmosphère-là, on s'est dit, OK, forcément, ça va créer des projets porteurs, des projets enthousiasmants et puis on le voit sur les premiers projets, on est toute l'équipe est super motivée.
Et ça, c'était plus possible chez Philosophia, justement, du fait que ça ait grandi. On voit ça aussi chez d'autres éditeurs, hein, que justement, à un moment, ça grandit tellement qu'on se sent moins peut-être impliqué. Je me rappelle d'une discussion avec Paul Mafaillon, illustrateur, qui avait bossé sur des jeux mobiles, où il disait finalement, au final, tu vois plus ce que tu as fait comme travail dans le résultat final. Est-ce que monter Plan B, justement, décider de quitter Philosophia, Asmodée, etc., dans cette dynamique-là, c'est la volonté justement de revenir à un cœur un peu de métier que tu avais au début et que tu as peut-être perdu?
Ben, je dirais, pour l'expliquer, je ne passerais pas par la négative et dire « Ah, c'est mieux maintenant, c'était moins bien » et tout ça, mais en fait, je pense que motivé de ce que je connais, tu sais, des personnes de que je connais, c'est vraiment de repartir à zéro avec... ben, quand je dis à zéro, c'est pas vraiment à zéro.
Ouais, vous avez un réseau, vous avez etc., de l'expérience. Donc,
mais de repartir un projet et justement d'être concentré sur le jeu lui-même, d'avoir plus d'implications, comme tu disais, d'avoir plus d'implications sur le résultat final et que finalement, ce que le résultat final reflète, c'est ce que mon travail a fait, ce que le travail de Philippe, c'est le travail de Chris Williams, de Sophie, et de toute l'équipe.
D'accord. Et donc, est-ce que justement, chez Plan B, vous avez un peu, comme tu disais au début de Philosophia, où il fallait être très polyvalent, où chacun avait ses forces, etc., personnelles et ses compétences, et que chacun avait une certaine polyvalence, ou bien est-ce que vous avez déjà dit, toi, tu t'occuperas de la direction artistique, toi, du développement, toi, tu seras chef de projet de ce projet-là, toi, tu seras du sourcing, toi, tu seras de la communication, ou bien justement, tu retrouves un peu cette idée de polyvalence?
Avec un fonctionnement peut-être un peu collégial ou
Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est bon, chacun a sa fonction principale, mais en même temps, on touche à tous les aspects aussi en même temps. C'est que on retrouve un peu les débuts de Philosophia à ce niveau-là. Là. Comme on travaille à petite équipe, on a tout intérêt à justement s'impliquer dans chacune des étapes des projets.
Et tu disais, vous êtes 9, c'est quand même 9 salariés. C'est des finances personnelles, c'est des investissements, il y a des gens qui aident, ça se passe comment? Parce que c'est quand même une prise de risque, hein, de remonter ça. À un moment, vous étiez dans un certain confort, Asmodée qui rachète Philosophia, etc. C'est quand même une certaine sécurité, quelque part. On avait discuté avec Sébastien Dujardin, il parlait de la place de studio qui fait qu'il était salarié à Asmodée, c'est une forme de confort. Remonter quelque chose, c'est une prise de risque. À un moment, ça se prend comment, cette décision de
La prise de risque a été faite à partir de, justement, la vente de Philosophia à Asmodée. Donc,
c'est ces fonds-là qui ont permis de relancer Plan B derrière. D'accord. Juste, quand on monte comme ça un nouvel éditeur, il faut communiquer dessus. À un moment, il faut dire « Salut, on existe et on va publier ça. » Et vous inquiétez pas, on vient quand même. On a du background, justement. On a de l'expérience. Donc, ce qu'on va proposer, c'est pas n'importe quoi. T'as parlé des salons, là vous êtes passé à Philibert, je ne sais pas si vous étiez à Ludinor par un autre moyen ou non.
Non, parce que dans le voyage... Ouais.
Là vous allez passer à Trick Track également demain.
Ça. Dans le voyage, on passait ici par Strasbourg, et c'était pas mal, ouais. À l'opposé, c'est d'aller...
Bien sûr, ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on communique? Alors on communique sur le jeu, bien sûr, parce que c'est ça que les gens vont acheter, mais comment est-ce qu'on communique sur l'existence de Plan B, et à quel point est-ce que c'est important et qui il faut aller voir? Est-ce qu'on va avoir des influenceurs, que ce soit aux États-Unis, je pense à Dice Tower ou autre? Est-ce qu'on va avoir Trick Track? Est-ce qu'il y a des interlocuteurs comme ça qui sont indispensables à aller voir?
En termes de médias avec qui
c'est ça, pour dire, à la fois pour dire on est un nouvel éditeur, on existe et ce qu'on vous propose, ça vaut le coup d'être regardé, et de dire et on sort ce jeu là
Mais en fait, les contacts médias de toute l'époque, F2Z, on a déjà une grande banque de contacts et aussi l'expérience de travail avec justement avec chacun. Ça fait que ça fait partie des plans de com et tout ça. Donc, c'est pour ça que dès le début de Plan B, on a commencé à communiquer sur Plan B, c'est quoi Plan B, l'équipe, etc. Et après ça, dans la foulée, on a commencé à parler des différents projets. En tout cas, ça faisait pas partie de la question nécessairement, mais de monter un plan pour justement venir parler de notre première sortie, puis de prévoir 2 semaines de déplacement en Europe et tout ça. Donc c'est le genre de choses qu'on va faire sur différents projets, où est-ce que Ah, OK, on en fait un peu plus pour justement faire connaître la nouvelle équipe, faire connaître le nouvel éditeur et faire connaître aussi les projets.
Et la distribution, vous êtes toujours chez Asmodée?
Oui.
Ouais. À un moment, il y a le fait de quitter Philo parce qu'on veut monter quelque chose d'autre, parce qu'Asmodée rachète, mais rester quand même en contact avec Asmodée. C'est presque un paradoxe quelque part. Comment tu expliques ça un peu?
C'est que les relations sont restées, les relations ont toujours existé avant et après, donc au niveau de l'achat.
C'est juste l'évolution de la relation Asmodée Philo qui vous donnait envie d'autre chose, mais par contre la relation de distribution.
La relation a toujours été bonne, donc ça allait comme de soi.
D'accord, ok, ça marche.
Alors, si on parle du démarrage de Plan B, comment s'est passé le sourcing pour vos jeux? Est-ce que vous aviez pu récupérer, je sais pas, des projets sur lesquels vous aviez déjà travaillé avant, que ce soit avec Pretzel ou est-ce que vous avez démarré à partir de zéro, entre guillemets?
En fait, il y a certains projets qu'on a pu récupérer en Plan B. Par exemple, Century, c'est un des projets qu'on a pu récupérer. C'est un projet qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur. On avait beaucoup travaillé là-dessus, on y croyait. Et après ça, on a récupéré tout le catalogue de Pretzel et les projets qui s'en venaient chez Pretzel. Donc, il y a certains autres projets qui étaient plus loin dans le temps qu'on a pu récupérer aussi à travers Plan B.
Et donc, le premier projet que vous allez sortir, date de sortie, donc c'est pour le mois de juin, donc c'est, oui, Century, la route des épices. C'est, mm-hmm, un jeu qui a déjà pas mal fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il était en présentation à Cannes. Mm-hmm. Je crois que les tables étaient assez prises d'assaut. Mm-hmm. Il me semble que notre équipe Proxy Jeux qui était à Cannes n'a pas pu le tester, je crois.
Ah, c'est vrai. Pas eu la chance.
C'est ça. C'est parce qu'il y avait beaucoup de succès.
Ouais, les tables étaient vraiment prises d'assaut. Nous avons l'auteur ici, Emerson. Alors, pour les auditeurs, on va lui poser, comme Emerson est anglophone, on va poser les questions en anglais. On va voir pour la traduction, soit on fait une traduction directe, soit on fait une traduction
en... Traduira peut-être pas tout mot à mot, mais voilà, on va faire une traduction globale, quoi.
OK, so Emerson, how did you start the project with Plan B about your game? How did you meet? Was it on an event, or how did you contact first with Plan B company?
That's a very interesting question in that... with Century, the game was actually picked up by Plaid Hat Games. So, and then
who made Mice and Mystics?
We and the when the company got acquired by F2Z Entertainment, then it fell into the Z-Man brand. And at that time, Sophie and Martin, had seen the game. And once Asmodee had acquired F2Z Entertainment and Plan B first came to fruition, then Century was going to be their launch title. And so I guess I was involved very early on in the conception of the company, in that Century would be their first title. And so we've been working since, I think, just before the formation of the company.
Okay. Notre première question pour Emerson a été: comment a démarré le projet avec Plan B et comment se sont réalisés les premiers contacts? Alors, le projet était d'abord chez Plaid Hat Games, qui est ensuite tombé dans le giron de Z-Man lors du rachat de F2Z. C'est à ce moment que le jeu est arrivé dans les mains de Martin et Sophie. Et lors du rachat par Asmodée et la création de Plan B, il était prévu que Century soit le premier titre édité par Plan B. Du coup, Emerson était en contact avec Plan B dès la création de l'éditeur.
And Century will be a trilogy. You will be involved in the sequel of the trilogy.
Yes. So we're working. Currently, we are developing the second game in the trilogy at the moment.
And it will be with the same thematic. So the thematic of the game is about trading spice. We will also discuss about the mechanic of the game.
Yes, that's correct.
Il est prévu que Century soit une trilogie, et on s'est interrogé si Emerson participerait également aux autres jeux de la série, et Emerson nous a confirmé qu'il travaillait déjà sur le deuxième titre.
How different is the initial game compared to the final game? And how did you develop and finalize a game?
Yeah, it's believe it or not, the final game is actually very close to your initial
idea.
It's very rare that you'll come up with a prototype and do have most of it be the same once it reaches the final product. But in this case, I feel like it's a little bit of a fluke, and I probably stumbled on something very luckily. But the prototype and the final game is very close in terms of the rules and the mechanics, so very little change from that. And the idea really came from playing other games that I really enjoy, like Agricola or Kalis or Lords of Waterdeep, a lot of other games where there's always a mechanism to exchange resources for victory points. Mm. So that's a common mechanic.
That's and very German.
It's very German, yes. Yes, I enjoy quite a few of those games. But I did realize that I liked the process of acquiring those resources
and transforming
the victory points. And a lot of the games have other mechanics, like you must feed your people or you must pay the taxes. And
you have constraints that you have to meet.
There's constraints. Mm. So it was more of a curiosity. Could I make a game that just incorporated only the part that I enjoyed most, and could I make it a viable game? So that's where the inspiration came from.
On a ensuite discuté du développement du jeu depuis son prototype jusqu'à la version finale. La version finale étant assez proche du proto au niveau des règles et de la mécanique. Et l'idée du jeu est venue à Emerson en jouant à des jeux qu'il apprécie particulièrement, qui mettent en place de la transformation et de la gestion de ressources, comme Agricola, Kalis ou Lord of Waterdeep. Emerson a essayé de se focaliser uniquement sur la partie mécanique de transformation de ressources en points de victoire, en s'affranchissant des contraintes qui sont amenées par ce type de jeu, comme par exemple le fait de nourrir sa famille dans Agricola. En fait, il s'est un petit peu donné un challenge pour voir s'il était capable de tirer l'essence de la mécanique de transformation de ressources en points de victoire afin de pouvoir créer un jeu viable.
And a question about the thematic of the game. Was the spice trading your initial idea, or was it added during the development of the game with Plan B Company?
When I first showed the game to Plaid Hat Games, and this was back in 2014, that it did come with the spice trading theme with it. But my first choice in themes was actually a cyberpunk, very Netrunner style theme, where the cubes would actually represent access nodes, and the cards that you played to trade those cubes would be your programs, and so the programs would allow you to get higher access, and when you were able to get a certain amount of access, then you could trade those cubes in to get victory points, which were the files from the major corporations. And the timing of the game, the end game, was when someone reached either 5 or 6 cards. And that's when, thematically, that's when the corporation realized that they're being hacked and there would be a lockdown. And so I had the thematics around that. That was my first choice for a theme.
Mm-hmm. It was Deus Ex the game, no?
So after I had play tested with many groups, and they said that the theme, while it makes sense, but it doesn't appeal to the market, they may like this type of game. So I spent a lot of time thinking about what themes would fit this most, and the market for the game, what kind of a theme would they appreciate most. And so it seemed like spice trading was the one that most people that I had presented it to enjoyed.
Lors de la présentation du jeu à Play That Game en 2014, la thématique du troc d'épices était déjà présente. Mais initialement, Emerson avait prévu un thème cyberpunk dans un style Netrunner, où les cubes représenteraient en réalité des codes d'accès, les cartes d'échange représentaient des programmes qui permettent d'élever son niveau de code d'accès, dont le but d'obtenir des fichiers en piratant des corporations, et ceci étant représenté par les cartes objectifs. Et la fin du jeu serait représentée par le fait qu'une corporation réalise qu'elle ait été compromise suite au vol d'un certain nombre de données.
Alors après plusieurs playtests, les retours qui ont été faits à Emerson sont que l'aspect marché, qui est une des mécaniques centrales du jeu, ne collait pas forcément à cette thématique cyberpunk. Et alors il s'est recentré sur une thématique d'échange d'épices qui faisait tout de suite beaucoup plus l'unanimité.
Okay, and about the mechanic of the game, so every player start with two cards and every player has four action available. To win the game, you have to meet what we could name some contract, because you have to exchange resource to get a contract, which is an objective.
Yes.
And we have different objective with different points.
Yes.
And in fact, the game is quite simple to explain. Mm-hmm. You explained us that when we met at Philibert, and it was, even if there is a lot of people around, some noise, you can start playing and start thinking about what your best action can be. And that I enjoyed in the game is that sometimes it's like a programmation game, because you know exactly what you will do for the next turns, and sometimes your programmation is destroyed because some other player just meet the contract you wanted to pick up. And sometimes you just want to play fast because you know, oh, I know what I will do now,
right,
the next turn and the turn after. And sometimes everything is destroyed and you said, oh no, now I have to think about everything.
Right.
And how did you fix the balance of the cards between objective cards, production cards, and exchange cards?
The game is, there's quite a bit of mathematics behind the game. So each of the different colored cubes, so there's in the game, there's four different colored cubes, and each cube has a different value. And so it was just a mathematical game where you're trading a certain amount of value for a certain amount of, and it's almost always in positive directions. And in terms of the balancing, I can honestly say that the cards aren't completely balanced, but that's also part of the game.
Yeah, about the game mechanic, it's there is some mathematics in it, and you have to think a lot what to be the best option. I remember during one turn when I first played, I made some transformation of resources, and after two or three rounds, what I transformed was exactly the same that what I started with. In fact, I made some kind of circle, and it was not efficient. So I just think, oh, what I played for the two or three turns before was just useless. In fact, and how did you balance the game? Did you work with some Excel file and played a lot of games just to think, oh, maybe this card is overrated, and this one is not powerful enough?
I actually did. Well, I had the I guess basic mathematics in mind when I made my first prototype after playtesting, and then I actually did make an Excel sheet, and I put all the possible values, all the expected values. And through the playtesting, then we were we numbered each of the cards, and as the playtesters had played each game, we looked at what the winners of the game, which card numbers that they had used, and realized that, you know, there are certain cards that are better than others. And actually, by design, the cards are actually not all equal. That makes the row of cards. So in the game, you have a row of market cards. We call them carte marché. Mm-hmm. So those cards, some cards will be better than others. And as you get better at the game, you'll be able to recognize, oh, this is a better card than that card. But the interesting the part that I was trying to design was that the cards would have a different value based on what you had. So the value of each card is different for each player based on what you had. Certain cards will work better with what you have in your hand, and it will be very attractive to you, whereas an opponent will look at the same card and say that's not very attractive to him because it doesn't synergize with the cards that he has. And also it incentivizes, if you see a card you really want, one of the mechanisms is similar to Small World, where you would place a resource or a victory point on the cards that are before it to be able to reach the card that you want.
And sometimes you can just buy a card that other people didn't want it but because right. there is resources yes. on it.
Exactly. Mm-hmm. Exactly. Sometimes you will see a card that has 3 or 4 cubes on it, and you will take it just because it's got so many resources on it.
Because it's not a drawback to have many cards in hands. In fact, you have no cons if you don't use them. In fact, you
right.
just collect the card, and yes. no matter if yes. you use it or not.
You oui. Said that it was not perfectly balanced.
Oui.
Was it a will from you? Was it possible to make it perfectly balanced? Personally, I don't like when a game is perfectly balanced because yeah. it's not fun. If
right.
everyone plays very good, mm-hmm. they will end the game with equality or almost.
1 or 2 points, maybe.
Yes, yeah. and I think it's... sometimes it may be boring.
Mm-hmm.
Right. So was it a will from you to make it not perfectly balanced?
Yes.
Yes.
It was definitely by design. If I had made each of the cards give the exact same value upgrade, the mathematics value upgrade, then every action would have the exact same value in terms of the player's progression. And so then you would end up in a state where all the players would have just about the same score. And so there wouldn't be as much fun, as you would say. And part of the fun is that some cards are more desirable, and that would make the choice of placing resources on the cards before it, and ultimately your opponents will take those resources. So those decisions would be a little bit more interesting, whereas if all the cards had the same value, then it would
you
take
just
away
have
that...
to make the best choice.
Right, exactly. Mm. Exactly.
And the main difference would be only the order how to play the card.
Right.
And that would be the only decision in the game.
Right, right. Mm. And that's another part that, by design, I wanted the order in which you play the cards to be interesting. There are more efficient ways. Playing the cards in a certain way will yield you, let's say, for example, playing the cards 1, 2, 3 would net you... say 6 green cubes, but playing them in a different order could net you 7 green cubes by just changing the order in which you play the cards.
On a ensuite parlé de l'équilibrage du jeu, et Emerson nous a parlé de l'aspect un petit peu mathématique du jeu, et nous indique que toutes les cartes ne sont pas forcément exactement équilibrées à la virgule près, mais ça rajoute un petit peu de sel au jeu. Emerson a travaillé avec des fiches Excel pour équilibrer les cartes et notamment leur affecter d'un score en fonction du nombre de fois qu'elles ont été achetées lors des parties. Alors l'équilibrage des cartes est également régulé par la loi du marché. On retrouve un petit peu la même mécanique dans Small World, à savoir les cartes qui ne sont pas achetées vont prendre de la valeur en y déposant des ressources dessus. De plus, la valeur des cartes dépend de la situation de chaque joueur. Alors concernant le non-équilibrage parfait, c'était un choix délibéré d'Emerson, notamment pour ajouter un effet d'attrait pour certaines cartes et créer des situations de concurrence. Enfin, on a parlé de l'optimisation de l'ordre de jeu des cartes, qui est très important, dans le but de réaliser les actions les plus efficaces. Et là, seul le joueur est maître.
What I liked in the game, in fact, the resource is the money. Mm-hmm. And at the same time, it's the condition to get victory points. So you
That's
didn't
right.
want it to include some an extra money representation. In fact, you wanted yeah. to use the
yes.
spice for boss usage. In fact,
yes, yes. There is currency where the there's all besides the market row. There's also a row of I like your term contracts. There's a row of 5 contracts, and above the first two, you do actually have little money coins. The game will include metal coins, and it's actually more just a reward than an actual currency, but you're absolutely right. The resources also act like your currency when it comes to taking the cards from the market row.
So maybe the game describe the economy in the future when we won't use money anymore, but only based on exchange,
yeah,
exchanging stuff.
The exchanging of goods, yeah.
It's what we call here a participative economy. When
right, right.
Which is abstract from any currency.
Coincidentally, it also reflects the thematics in that back in, I think, from... like the 6th century to the 14th or 15th century, spices were used as a currency back then. In fact, we say salary, and that's actually based in that based on the word sal, which is salt. So historically, Roman soldiers were paid in salt. So the game mechanics kind of reflect a little bit about that history as well, that, you know, the spices were used sometimes as a currency.
So I will ask my boss if he will give me some paper then.
On a ensuite discuté du rôle des cubes d'épices qui ont la double fonction, jouant à la fois un rôle pécunier et un rôle de condition pour obtenir des points de victoire. Alors c'est en réalité très thématique parce que par le passé, le sel et les épices étaient utilisés pour rémunérer la solde des soldats.
Also, before this game, you made other games.
Yes.
You made Vault and Trick and Treats, which are not very famous.
Right.
And Spectre Ops, yes, which is more famous. Mm-hmm. It's good rated on Board Game Geek. It's today 321.
Yeah, because in the podcast team, mm-hmm, I made a monthly presentation of a game, mm-hmm, which is located in the top 500 Board Game Geek rate. So can meet the condition.
And I didn't play Spectre Ops, but mm-hmm, it looks very different from Century.
It is quite different.
Was it a will from you to make something very different? Spectre Ops doesn't seem very German.
Yeah.
In fact, it was with Playdad Games. This was the first contact.
Is your question on why did I make
first,
the games?
First, maybe the relationships between the two games, why make a game so different?
Eric Martin from BGG asked me a similar question, and I gave it some thought after I had that interview with him, and I think it's that I enjoy lots of different kinds of games, and when I design a game, since I don't have somebody to tell me, hey, I want you to make a Euro game, or I want you to make a roll and move game, since I don't have anyone telling me what to make, I would go with what I feel like making at the
inspiration
time. Right. Mm-hmm. When I just go with the inspiration, when that inspiration comes, I'll take it and see what I can make with it. And so it wasn't, I didn't purposely try to make games different. It just so coincidentally happens that the games that the prototypes I made, they were very different from each other.
And did you find it more difficult to design Century as it's balanced, not perfectly, but mm-hmm, it needs a balance, or maybe Spectre Ops, which is more Ameritrash, we say in France.
Mm-hmm. Yes, Ameritrash.
Yeah.
It's
it must be very different. No,
it's the thought process was very different. With Spectre Ops, I focused more on how the players felt in the game, whereas with Century, I focused more on making an enjoyable game mechanically. So it was with Century, I focused more on the mechanics, and with Spectre Ops, I focused more on how I wanted the players to feel during the game.
How do you work with Spectre Ops to work on how people feel? It's very hard to conceive.
Yes.
How mechanically mm-hmm, you can work on this?
With Spectre Ops, it is a hidden movement game similar to, say, Scotland Yard. And it works well when I had a friend from college who helped me through Skype. So we use an internet program to speak online. And for several nights, he would play one side of the role, I would play the other side of the role. And the experience that I was targeting, the certain type of an experience, I changed the rules and made little changes and adjustments until I started to feel the feeling that I wanted the players to have, and that feeling was that excitement of being chased, or that nervous feeling of letting your target get away.
It's like the same feeling in Century, because you try to chase a contract and to watch other players, mm-hmm, because there is interaction in the game, because all the resources are You can see them from yes. other, mm-hmm. and you can also see if they are racing for the same contract as you.
Right, right.
I remember twice in the same game, the other player have stolen my contract. I wanted to.
On a ensuite parlé de Spectre Ops, qui est un autre jeu de Emerson, qui est sans doute son jeu le plus connu jusqu'à présent. Alors c'est un jeu très différent, qui a plus une approche Ameritrash. Et Flavien l'a interrogé pour savoir si c'était une volonté profonde de créer un jeu totalement différent, donc plus à l'allemande, avec Century. Et en fait, Emerson nous a répondu qu'il n'avait pas de contraintes sur la création et qu'il s'est simplement laissé tenter par son inspiration. L'idée étant, pour Century, de se focaliser plus sur le ressenti d'une mécanique. Alors que dans Spectre Ops, qui est un jeu à rôle où il va falloir poursuivre son adversaire, un petit peu comme dans Scotland Yard, Emerson avait tenté de jouer plus sur les émotions ressenties par les joueurs.
Was it also important for you to have this kind of interaction, even if the game is some mathematic in the game, you still wanted to have and not to play just alone? Mm-hmm.
I did want to have some incentive for the players to go after the same card, and that's why the coins mm-hmm. were there, so that mm-hmm. players would look at that and say, oh, that one has a bonus of mm-hmm. 3 more points. I want to go for that one. It's when I was designing it, I stumbled on it accidentally. So I'm an accidental designer. I just stumble on things.
Like you said, it had lots of pressure on the game mm. to run after the same contract. And
I was thinking I felt the same pressure that when I played the Ticket to Ride, because sometimes mm-hmm. I just want to collect the
yes.
more cards.
Mm-hmm. But it will go there. Oh no!
I'm just thinking. Oh, but the cards are hidden, so you don't know if the other player has the same colors.
Right.
But you worried about. I'm interested in this line, mm-hmm. but I won't play it now. I will delay a little bit, and mm-hmm. it was. I could feel the same pressure because mm-hmm. I just collect resource, mm-hmm. and because of the transformation cards, mm-hmm. even if you have some colors, mm-hmm. you have to look at the other player, and you say, oh. If you remember what he bought,
right.
he could transform these cards mm-hmm. just to hide. You can also hide your game just mm-hmm. to pretend you are interested in one contract.
Right.
But in fact, you can change your resource and
mm-hmm. right.
suddenly into the right one and to get the contract before mm-hmm. Before the other.
Right.
So you have lots of yellow cubes, for mm-hmm. example, and
yeah.
in one turn you switch them and
yeah
that's why it helps to have lots of cards. So when I play the game, I may not when I play, I probably don't play it as well as I should, but I tend to like to get many cards, so I have lots of different options.
On a ensuite parlé de la partie interaction et notamment de l'importance des pièces bonus qui sont présentes sur certains contrats. L'idée d'Emerson était de créer des situations de course et de concurrence pour un même objectif. Alors cette mécanique met notamment une certaine pression sur les joueurs, puisqu'on va surveiller les autres joueurs pour s'assurer qu'on soit le premier à pouvoir remporter un objectif sur lequel il y a des pièces bonus. Et Emerson nous a avoué qu'il était presque tombé par hasard sur cette mécanique et qu'il l'a inclus dans le jeu.
And the cards that can be bought are just randomly placed at
yes.
the beginning of the game.
Yes.
And I remember in my second game, the 3 or 4 first cards were not really interested, in fact.
Mm-hmm.
So nobody wanted to buy them.
Mm-hmm.
And did you think about placing a starting set of cards during development?
Actually, the initial design actually had a starting set of cards, and that would transform the lowest cube, the cubes that you started with, into the other cubes. But it was through development with Plan B, they decided it's kind of boring to see the same set of
the
cards.
Same and the same
the
strategy for
yeah,
the
because
same starting.
It gives a path to the game, so the first player will take this card, the second that card. So while you... Because that happened on first game, because for experimented player, so I can see that this card is not really interesting now, but maybe in 2-3 turn it will be really interesting.
Yeah.
So I will rush for that card now mm-hmm. and take my time to fit it with other cards. So that's the thing.
Okay.
Yeah.
Nous avons terminé notre discussion en anglais sur la disposition des cartes de départ et on s'est demandé si à un moment il avait été imaginé qu'il y ait un set de cartes de départ prédéfini au marché pour éviter un set de cartes qui serait inintéressant pour un tout début de partie. Alors Emerson nous a dit que l'idée était initialement présente, mais finalement l'idée a été abandonnée pour éviter systématiquement un schéma de démarrage identique à chaque partie. Et une disposition aléatoire permet des démarrages et des tentatives de stratégie différentes à chaque partie.
Et donc si on parle des projets à venir que vous allez sortir chez Plan B, donc Century, ça sera une trilogie, donc
oui.
Qui va, en fait il y aura une suite, ça sera une suite mécanique ou une suite thématique dans les jeux?
Dans les deux cas, c'est une suite mécanique et thématique dans le sens qu'on va retrouver des mêmes similitudes au niveau de la mécanique. Le prochain jeu, il est prévu pour l'an prochain, donc 2018-2019, il y aura des jeux qui sont annoncés.
Vous essayez de monter une... C'est quoi? C'est une gamme ou une...
Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale?
Ouais, une ligne éditoriale autour de Century pour que ça devienne votre marque de fabrique?
Ben oui, parce que nous, dès l'origine, on croyait au jeu et de le sortir tout seul avec les idées d'Emerson, on trouvait que il y avait plus, on pouvait aller un petit peu plus loin. Et donc, tout de suite, on y a parlé de pourquoi s'arrêter à juste Century, on pourrait le développer encore plus et tout ça. De là est née l'idée de y aller avec une trilogie comme ça annoncée et des connexions entre chacune des boîtes pour dire bon, chacun est standalone, mais chaque deux jeux est aussi mixable ensemble.
On pourra les mélanger.
Oui.
D'accord.
Ça me rappelle un peu ce qu'a fait Shem Phillips. C'est ça avec Pierre de la Mer du Nord. Il y avait Explorer et il y avait je sais plus le troisième. Où finalement c'est trois jeux indépendants, mais il avait dit qu'on pouvait faire une campagne des trois qui suivent finalement, où chacun des jeux indépendamment est intéressant. Enfin, moi j'ai pas joué, mais a priori ils sont intéressants. Et que justement il y avait cette possibilité de campagne. Il y a un peu ça, effectivement, le fait de chaque jeu doit être intéressant en tant que jeu lui-même, mais d'arriver à faire une espèce de transcender l'expérience avec ça.
Mmh.
Ouais.
Mmh. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas une campagne, ça va être carrément un jeu plus un autre qui devient.
Un nouveau.
D'accord.
D'accord, on peut les composer entre eux, du coup.
Mm-hmm.
Donc, on peut faire sa petite cuisine en mélangeant les composants ou les règles.
Le choix du nom Century, c'est vrai que c'est relativement générique. Je m'étais amusé à taper Century sur Board Game Geek. Et finalement, Spice Road n'arrivait que 7e. Pourquoi ce choix de nom? Est-ce que ça évoque un univers ou bien...
En fait, l'idée, c'était que chaque boîte de jeu se déroule dans un nouveau siècle.
D'accord.
Donc, on y va avec des siècles successifs.
Mm-hmm.
Puis chacun parle de justement d'échanges et tout ça et va mettre l'accent sur un fait marquant du siècle. Donc, pour nous, c'était vraiment, OK, on avait trouvé une histoire qui était... qui reliait chacun des jeux et tout ça et qui présentait un univers riche et...
D'accord, avec vraiment un fait marquant du siècle. Du coup, quand tu parlais de mixer entre guillemets les jeux entre eux, thématiquement, si c'est trois siècles différents, il y a un truc derrière qui se greffe ou bien c'est vraiment mécaniquement qu'ils vont aller ensemble et thématiquement, finalement, ça risque de pas forcément coller?
Ben, mécaniquement et thématiquement, donc on travaille à ce sujet-là. C'est sûr que présentement, on est dans la mécanique de jeu. Mais le passage d'un siècle à l'autre, c'est aussi il y a un pont entre les deux, donc mm-hmm. c'est pas ça se fait tout en douceur.
D'accord.
Et que on va retrouver ça aussi justement dans les jeux.
D'accord.
Ok.
Et est-ce qu'il y a alors il a souvent été comparé, c'est vrai à Splendor. Hein, il y a eu beaucoup de comparaisons. Vous parlez de trilogie. Est-ce que Emerson tout à l'heure a dit que le deuxième jeu était en développement déjà? Est-ce que la parution d'un deuxième jeu, ça dépend forcément du succès du premier ou bien vous êtes parti sur une trilogie, vous la ferez de toute façon?
On est parti sur une trilogie, on va la faire.
D'accord, ok.
Et je crois qu'on ne l'a pas dit, mais la sortie du jeu en boutique, elle est prévue pour...
Le 14 juin.
14 juin.
Mm-hmm.
Yeah. Également, on voulait parler du matériel de la boîte, parce que tu m'avais dit, moi pour le coup, je n'ai pas eu la chance d'y jouer, mais tu m'as parlé de pièces en métal, de petits bols, etc. Pour un prix de vente que vous prévoyez à...
34,99.
34,99. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ces derniers temps, de vraiment le choix entre guillemets d'un matériel luxueux, dans le côté
premium, ouais, en tout cas,
ouais, dans le côté amélioratif du terme, pas péjoratif. Avec évidemment, si vous aviez mis des pièces en carton de punch, ça aurait peut-être été un peu moins cher. Pourquoi ce choix d'un matériel? On a eu ça avec Splendor également, et à la fois le fait que le matériel est très important dans Splendor, les jetons de poker où les gens ça change l'expérience de jeu, et il y a eu aussi des critiques comme quoi finalement Splendor c'est bien joli, mais ce matériel ne sert à rien mécaniquement. Et il aurait pu être moins cher si ça n'avait pas été du matériel aussi luxueux. Donc, vous semblez vous orienter vers quelque chose de plutôt...
En fait, ce qu'on pense, c'est que le côté tactile des jeux... pourquoi on va passer du temps à s'asseoir à table, à jouer avec des cartes, des punchs, et parce que le plaisir est là, là. Donc, c'est autant dans la mécanique, c'est autant dans le thème... Pourquoi on met tant d'efforts au niveau du visuel et tout, ouais. C'est parce que...
Donc, du plaisir pour les yeux, pour
exact,
les doigts,
sinon
pour les
ça
mains.
Pourrait être des numéros sur des cartes, ça pourrait... Donc, on le voit lorsque nous, on travaille au développement et on travaille justement à partir du prototype en rough. On peut se projeter dans qu'est-ce que ça va devenir plus tard, mais dès que je m'adresse à un joueur occasionnel, le plaisir est pas nécessairement au rendez-vous à son maximum parce que le jeu n'est pas dans sa forme optimisée. Donc, pour nous, le plaisir tactile, c'est aussi super important.
Oui, ça joue sur l'expérience de jeu, pas sur
exactement.
Les mécaniques, mais sur...
Donc, si, admettons, on y va seulement avec les formats de cartes, le choix de la carte tarot, c'est un autre choix qui est par rapport au plaisir de jeu, qui met en valeur, l'illustration. Puis après ça, au niveau de la prise en main des cartes et tout... C'est vraiment plus agréable à manipuler des cartes de ce format-là, de les voir sur la table. C'était un peu la même chose avec les petites pièces de métal.
On n'a pas parlé de l'illustratrice d'ailleurs, Fernanda Suarez. Vous l'avez contactée comment? Elle avait déjà travaillé sur Ashes et Dead of Winter. Est-ce que c'était logique de travailler avec elle du fait de ses collaborations précédentes?
À cette étape-là, il y a une bonne partie, les illustrations étaient déjà amorcées. Donc, nous, on a récupéré le projet avec toute une banque d'illustrations. Donc, le travail final graphique n'était pas terminé, mais les illustrations, oui.
Et peut-être au niveau de la relation avec l'illustratrice, justement, est-ce que il y a plusieurs gens, en tout cas, qui s'intéressent à cette thématique. Il y a eu Jaipur, il y a eu La Route des Indes. Il y a eu Marco Polo, il y a eu Istanbul. Est-ce que vous avez fait une demande à Fernanda de se démarquer? Est-ce que vous savez si elle s'est inspirée de certaines choses qui existaient dans le jeu de société ou ailleurs?
Ça, je ne pourrais pas te dire parce qu'on n'a pas travaillé en direct avec elle à ce niveau-là.
D'accord. Et du coup, les jeux suivants, Century, donc la trilogie, on a dit que Emerson allait travailler sur la suite. Est-ce que Fernanda également ou l'illustrateur n'est pas forcément le même
À l'interne, on a Chris Williams qui travaille avec nous, qui a fait toutes les illustrations. Depuis l'acquisition d'Iman, il travaille sur tout ce que vous avez vu dans différents styles.
C'est lui qui avait fait la gamme Prestige également?
Oui.
Ouais, hein, c'est ça, qui sont pour le coup très très jolis.
Tichu, Arboretum.
Oui,
Parade,
exactement. Et même sur Pretzel, donc on peut voir que
des styles différents.
Complètement différents. Flick 'em Up, c'est Chris Williams qui l'a illustré. Toute la gamme Pandémie, donc il peut aller dans un style très réaliste ou dans un style vraiment plus je dirais cartoon, mais
cartoon ou plus aérien, entre guillemets.
En développement de style. Et il travaille en collaboration avec Philippe, donc c'est autant de l'illustration mais du design en même temps. Donc il travaille des heures et des heures à développer les styles. Et dans ce cas-là, Chris Williams va reprendre les illustrations pour les prochaines boîtes.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... On a parlé de la...
Alors, juste pour... Donc, lors des démonstrations, il y a, pour Century, vous utilisez un tapis de jeu.
Oui.
Alors, il n'est pas dans la boîte, mais tu me disais que peut-être que vous le proposerez par la suite.
Il sera disponible en ligne sur planb.com, sur la boutique en ligne. Donc, le tapis sera proposé.
Parce que là aussi, quand on parle de matériel, c'est entre guillemets du matériel qui ne sert pas au jeu, mais pourtant, le fait de jouer avec, ça rajoute quand même quelque chose d'agréable. Et même si ça ne participe pas mécaniquement comme tu disais pour le cas des jetons par exemple, mais ça facilite quand même la manipulation et d'avoir les cartes bien disposées sur le...
En fait, nous, c'était vraiment par souci de démonstration. Donc, partir avec le tapis, le jeu, faire une démo comme on a fait hier à Mulhouse, c'est vraiment plus facile que juste avec la boîte. Mais tout les tapis, on vient de recevoir. Donc, tout le développement du jeu, toutes nos centaines de parties qu'on a jouées, c'est sans le tapis, donc...
Oui, c'est pas indispensable. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit à la mode, entre guillemets, ces derniers temps, pour Abyss, pour Splendor, etc. On peut se dire que c'est inutile, donc indispensable. Ça fait partie de ces petits trucs destinés à un public assez restreint, finalement, de passionnés. Vous, est-ce que là-dessus, c'est quelque chose d'ultra rentable de vendre ça, puisque en plus, c'est via votre site, ou bien c'est quelque chose qui, finalement, est à l'équilibre, parce que ça vaut pas le coup de perdre de l'argent, mais qui se dessine vraiment à une marge de passionné, mais qui va pas vous faire rouler. C'est pas ça qui va vous faire rouler sur l'or, quoi.
En fait, on fait des jeux.
Ouais.
Je saurais pas dire pour les tapis au niveau de la rentabilité et le reste.
C'est plus pour faire plaisir aux joueurs au final, parce que vous savez qu'il y a peut-être qu'une infime partie de la cible qui va l'acquérir.
Oui, avant tout, c'est vraiment le jeu qu'on priorise. Par exemple, sur d'autres jeux, on a eu beaucoup de demandes pour des tapis sur Flick 'em Up pour Pretzel. Puis, un tapis pour Flick 'em Up, c'est beaucoup plus grand.
Il faut un truc de 2 mètres carrés.
Puis après, je dis beaucoup de demandes, mais c'est quoi finalement la demande exacte pour un tapis comme ça? Donc,
On parlait de Century. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, on n'a pas parlé du devenir, entre guillemets, de Pretzel Games. Peut-être rappeler que, justement, le fait que ça a été racheté par Asmodée, etc. Plan B, Pretzel Games, rappelle juste la création et le lien qu'il y avait à Philosophia, peut-être très rapidement.
En fait, le lien, c'était une volonté de faire du jeu d'adresse, parce que le jeu d'adresse était un peu disparu des tablettes depuis un moment. Puis, à l'interne, on était plusieurs vraiment intéressés par le jeu d'adresse. Puis, on a eu quelques propositions. Puis, dans la réflexion, ça a duré quand même quelques mois ou même un peu plus. C'était est-ce qu'on publie à travers une marque qui existe déjà, par exemple, Z-Man Philosophia, ou on crée une nouvelle marque qui va uniquement proposer du jeu d'adresse.
Qui aussi, là aussi, on parlait de matériel. Là, pour le coup, que ce soit Junkart ou Pretzel Games, c'est la volonté d'un matériel assez luxueux, même les boîtes qui sont assez marquées artistiquement.
Exactement. C'est dans toute cette réflexion-là, finalement, qui a mené à « OK, on va partir une nouvelle marque et comment est-ce qu'on va l'offrir? » Donc, on a décidé de pousser le produit à fond pour que, finalement, on offre un produit de luxe dans sa première édition. Pour justement faire plaisir à nous, parce qu'on aime le bois et tout, et avoir des boîtes bien garnies. Et puis,
c'est aussi une prise de risque un peu supplémentaire.
Oui, au niveau de la prise de risque, c'est le genre de projet qu'on se disait OK, on essaie, on voit si ça marche.
Et justement, pour parler de Flick 'em Up, il était vendu à une soixantaine d'euros prix conseillé, il me semble. Et ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a eu vraiment un succès, notamment, je pense, en partie dû au matériel? Est-ce que vous avez, au niveau des retours, vu que le choix entre guillemets du luxe et du beau matériel, ça paye?
Oui, en fait, oui, ça fonctionnait, parce que déjà sur les premiers mois de la sortie, on enchaînait les réimpressions et ils se vendaient très rapidement. Là, donc après ça, on enchaînait avec une première extension tout de suite dans les mois qui ont suivi.
Puis là
aussi. Oui, puis aussi c'est bien vendu. Une deuxième extension qui est parue, je dirais 8-9 mois plus tard. Puis après ça, Junkart qui est paru. Alors, oui, ça a été une bonne prise de risque, comme tu disais. Fallait l'essayer. Puis maintenant, on se retrouve avec un beau catalogue et on continue à publier justement sous ce catalogue.
Et donc là, tu nous as ramené une boîte qui est... Le jeu est déjà sorti ou c'est à paraître?
Non, le jeu est à paraître, donc il va sortir Gen Con cette année.
Et donc c'est la boîte de Flick 'em Up, Dead of Winter, c'est ça?
Oui, c'est l'adaptation de Flick 'em Up, mais dans un univers zombie.
Et donc Pretzel Games, Philosophia, il y avait Philo, il y avait Zenman, il y avait Playdat, il y avait Pretzel. Là, plan B, vous êtes toujours lié à Pretzel, mais pas à Zilman et pas à Playdat, c'est ça?
En fait, le reste des sociétés a été acquis par Asmodée.
Mais pas Pretzel.
Le chapeau, c'est plan B. Donc, plan B Games publie des jeux, mais détient aussi des marques. Pretzel Games est la première et il y en aura d'autres.
D'accord, c'est déjà prévu effectivement d'élargir un peu la famille, si on veut parler de famille. Et du coup, je posais cette question-là par rapport à Pretzel. Là, on a parlé de Flick'em Up Dead of Winter. C'est vrai que chez Plan B, on a parlé de Century. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui, entre guillemets, vont faire vivre la boîte autre que Century, soit chez Plan B, soit chez Pretzel, soit ailleurs, comme tu l'as dit?
Oui, on aurait toutes les sorties Gen Con, les sorties SN. Donc chaque marque va proposer des jeux ASN, des nouveaux jeux ASN et à Gen Con.
Et les prochains jeux de Plan B,
on n'arrivera pas à en avoir plus là comme information.
Non, mais justement, est-ce que c'est des choses que vous avez récupérées entre guillemets de l'époque de Philo, ou bien il y a des gens qui se sont dit ok, Plan B se lance, on les contacte pour leur proposer des jeux, ou vous êtes allé chercher des commandes ou...
En fait, il y a les deux. Il y a les deux, parce que de l'époque Philo, par exemple, si je reviens sur Flick'em Up Dead of Winter, c'est un projet qui est né tout juste de la fin F2Z, de l'acquisition et tout ça, parce que c'est un projet qu'on avait avec Playdat.
Oui, bien sûr, qui publie Dead of Winter.
Exact. Donc, t'as ce genre de projet-là et d'autres projets qui sont nés tout de suite par la suite.
Et c'est plutôt des gens qui sont venus vers vous qui êtes allés chercher des projets?
Je dirais c'est un peu les deux aussi, parce que dès que ça a commencé à être annoncé, les gens voulaient savoir bon qu'est-ce qu'on allait faire par la suite, et nous il y avait des gens avec qui on voulait travailler, et on est constamment en contact avec les salons Gen Con et SN l'année dernière, donc on rencontrait tous les gens avec qui on travaillait. Donc,
Le fait déjà... d'avoir en fait ce background chez Philo, ce réseau personnel même, ça aide effectivement, je pense, à lancer un nouvel éditeur. C'est ce que tu as dit.
Oui.
Vous repartez de zéro d'un point de vue envie, mais par contre, c'est vrai que tout ça, vous l'aviez déjà.
Oui, parce que ça, juste à titre d'exemple, on travaillait avec Matt Leacock sur Pandémie. On a beaucoup aimé travailler avec Matt Leacock sur ce projet-là. Mais là, on avait un désir de continuer de travailler avec Matt Leacock. Donc, dans Plan B, et même dans Pretzel, on continue à travailler avec Matt Leacock.
Ok, moi je pense qu'on peut conclure là-dessus.
Oui.
Eh bien, merci Martin et merci Emerson d'avoir accepté l'invitation à nos micros.
Merci.
On vous souhaite encore une bonne tournée et encore beaucoup de belles parties de Century, la route des épices en présentation. Et que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y retrouverez toutes les infos sur les sujets dont nous avons abordé pendant cette émission. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et en attendant,
jouez bien.
You will recognize that the...
excuse me.
The Hoover style.
Et ce mois-ci, grâce à notre partenaire Philibert, on vous propose de gagner un bon d'achat de 5€ valable pour une commande de 40€ ou plus. Alors, le bon d'achat sera à saisir sur le formulaire récapitulatif de votre commande dans la zone code promo. Et le code promo à découvrir ce mois-ci est composé d'un mot et d'un chiffre, tout attaché. Alors, le mot, qui est un terme anglais, reprend la thématique du premier jeu qui sera édité par Plan B. Et le chiffre représente le nombre de personnes qui composent Plan B au total. Bonne chance à vous et d'ici là, jouez bien !